franceinter.fr.
Alerte sur les fongicides aujourd'hui à la une de la science.
Contre les principales maladies du blé, de la montaison à l'épiaison, tous les programmes fongicides ont aujourd'hui une solution planète. Planète R ou Planète Aster. Planète, toute l'intelligence fongicide.
Voilà, c'est en 1993 qu'on pouvait entendre cette publicité et aujourd'hui les agences de santé qui sont peut-être passées justement à côté des effets des fongicides sur la santé et l'environnement depuis maintenant plus de 25 ans. C'est la question simple et documentée que pose dans Libération un groupe de 8 scientifiques spécialistes des maladies rares et des cancers. Axel, on accueille celui qui est à l'origine de cette tribune.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Pierre Rustin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS dans l'équipe physiopathologie et thérapie des maladies mitochondriales. Alors ce sont des maladies souvent génétiques, héréditaires. Expliquez-nous un peu comment vos travaux sur ces pathologies ont fini par croiser la route des fongicides alors.
Eh bien depuis une trentaine d'années, nous travaillons sur les maladies.
Ah, je crois que... On vous entend assez mal. Vous pouvez essayer de répondre une deuxième fois, mais si ça passe pas, peut-être qu'on devra vous rappeler.
D'accord. Depuis une trentaine d'années, nous travaillons sur les maladies mitochondriales, sur les aspects génétiques. C'est bon, ça passe ?
Ça passe très bien.
Oui, très bien, Pierre-Rustin. Continuez, on vous entend.
Alors, je continue. Et à l'occasion de travaux que nous avons faits depuis des années, depuis les années 95, 1995, nous avons vu qu'une partie de ces maladies dites mitochondriales était liée à un déficit d'une enzyme particulière qui est localisée dans les mitochondries, ces petites usines énergétiques de toutes les cellules. Mm-hmm. Cette enzyme, elle s'appelle la SDH, succinate déshydrogénase. Et nous avons au cours des années vu que des blocages génétiques de cette enzyme pouvaient conduire chez l'enfant à des maladies neurologiques très graves ou au contraire chez l'adulte à des tumeurs et à des cancers qui touchent les reins et les voies gastriques.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé jusqu'aux champignons alors ? Et à ceux
alors,
qui tuent les champignons ?
J'en viens à cela. En travaillant sur ces maladies depuis des années, nous avons été amenés à écrire un nombre de revues scientifiques de mise au point sur ces maladies. Et à l'occasion d'une de ces dernières revues que nous avons faites, nous nous sommes intéressés à l'aspect non génétique possible des déficits de cette enzyme, du blocage de cette enzyme. Et là, nous sommes tombés sur les inhibiteurs de ces enzymes qui sont utilisées comme fongicides à très grande échelle maintenant dans le monde.
Et donc vous êtes simplement posé une nouvelle question, vous n'avez pas fait de nouvelles études sur ces fongicides ?
On n'a pas fait véritablement de nouvelles études, les éléments sont tous là, chacun les a en main. La seule chose que nous avons vérifiée, c'est que effectivement ces fongicides bloquaient bien l'enzyme humaine. Et nous avons trouvé une sensibilité équivalente chez l'homme et chez les vers. Le ver de terre.
Pierre Rustin, donc ça a été assez long, le processus, justement, le lien entre vos études et puis ensuite l'association avec les fongicides, ça vous a surpris, finalement, cette découverte ?
Totalement, on ne s'y attendait pas du tout, d'autant plus que nous travaillons depuis 25 ans sur ces maladies, que ces fongicides existent également depuis 25 ans. Le fait qu'on n'ait pas fait le lien est simplement incroyable pour nous aussi.
Mais que vous ne l'ayez pas fait, pourquoi pas ? Mais pourquoi les agences de sécurité sanitaire ne l'ont pas fait, elles aussi ?
Ça vous me posait une colle. Il est vrai que c'était des maladies génétiques assez rares, mais de mon point de vue, les gens qui à l'époque ont donné l'autorisation de ces médicaments, de ces substances, auraient dû nous contacter. Logiquement, ils auraient dû nous contacter. Mais ça n'a pas été fait.
Concrètement, qu'est-ce que vous craignez comme effet sur la santé humaine avec l'utilisation de ces fongicides qui est massive, je crois ?
Alors, c'est une utilisation massive. Je ne sais pas quelle quantité de ces substances passent dans l'alimentation humaine. C'est sûr qu'il y a une contamination de l'environnement, des eaux, de la terre, des aliments, mais je n'ai aucune idée du risque encouru. Je sais que c'est extraordinairement dangereux. Le risque reste à évaluer et ça devrait maintenant être pris en main par les agences
urgemment. Est-ce que vous avez contacté les agences de sécurité sanitaire et alimentaire ?
Je les ai contactés dès qu'on a fait le lien entre ces deux aspects, les maladies humaines et l'utilisation de ces fongicides. J'ai contacté l'agence immédiatement pour pour les informer. Jusqu'à présent, on n'a pas eu véritablement de retour.
C'est pour ça que vous avez choisi de passer par la voie de presse pour essayer d'accélérer un peu les processus?
Absolument, au bout de 6 mois, parce qu'en fait, on est à 6 mois de cette alerte initiale.
Oui.
Nous avons considéré qu'il était temps de rendre l'information accessible.
Depuis quand est-ce qu'ils sont utilisés, ces fongicides, en particulier dans l'agriculture?
Alors, il y a eu une première génération qui doit dater d'une trentaine d'années, peut-être même plus, et puis une génération plus récente qui correspond au fait qu'ils ont été utilisés à très grande échelle depuis 5-6 ans.
Ouais. Pierre Rustin, justement, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire, attention, il y a des risques sur des pathologies très particulières, ou engageons d'abord et avant tout des études et des recherches?
Il faut absolument faire des études. Les maladies mitochondriales, comme celles qui peuvent être provoquées par un blocage de l'ASDH, peuvent aller des encéphalopathies du jeune enfant à des cancers de l'adulte, c'est-à-dire couvrent un range de maladies incroyable. C'est assez difficile de prévoir quelles peuvent être les conséquences pathologiques de l'usage de ces fongicides.
Est-ce qu'on peut imaginer des risques pour autre chose que pour les hommes, pour la faune ou la flore autour de ces champs, par exemple?
Malheureusement, autant pour l'homme, je n'ai pas idée du risque, mais autant pour la faune, compte tenu de ce qu'on entend récemment sur les populations de vers de terre, les oiseaux, les poissons, toutes ces choses-là, c'est sûr que ce sont des cibles. Ils ont une exposition directe à ces molécules qui inhibent aussi bien chez l'homme, chez le champignon, chez le vers de terre, donc probablement dans la plupart des espèces.
Donc vous faites un lien entre l'effondrement de ces populations que vous venez de nous décrire, par exemple les vers de terre ou les oiseaux, et ces produits utilisés en agriculture?
C'est au moins assez difficile d'éliminer qu'ils soient responsables en partie de ça.
À la fin de la tribune, vous appelez d'ores et déjà à suspendre l'utilisation de ces molécules, avant même d'avoir démontré complètement ce lien. Vous êtes personnellement inquiet?
Absolument. Il y a une grande inquiétude parce que l'expérience que j'ai des maladies mitochondriales, de leur côté multiforme, me laisse à penser qu'il y a toute chance que dans 15 ans, dans 20 ans, on réalise que le fait d'avoir été exposé à ces molécules est un facteur aggravant énorme.
Merci beaucoup Pierre Rustin. On peut signaler que la tribune est sortie lundi dans les colonnes de Libération. On la trouve bien sûr toujours sur le net. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science.
Merci à vous aussi.
Et puis Axel Villard, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la malaria qui a une odeur. Les parasitologues de l'université de médecine de Saint-Louis ont montré que les corps humains infectés par le parasite de la malaria dégageaient une odeur particulière attirante pour les moustiques, ce qui a pour conséquence de continuer à propager la maladie. Leurs travaux se basent sur un échantillon de chaussettes d'enfants kényans dont certains étaient infectés. Et ils montrent que les moustiques sont attirés majoritairement par les chaussettes d'enfants malades. Mieux connaître cette odeur pourrait permettre de diagnostiquer plus efficacement la malaria. Chez les marmousets vocalisés, eh bien ça s'apprend, à l'instar de bébés humains qui développent le langage en interagissant avec leurs parents, eh bien les primates marmousets font de même. Des neurobiologistes de l'université de Tübingen en Allemagne racontent que les ouistitis apprennent plus vite les vocalisations et leurs structures quand ils sont en contact constant avec leurs parents. S'ils n'interagissent pas dès le plus jeune âge avec eux, eh bien ces singes développent un retard d'élocution qui ne se rattrape pas à l'âge adulte. Une interaction sociale précoce aurait donc un rôle fondamental dans le développement chez ces nombreux primates. Et puis les animaux sauvages sentent-ils vraiment venir les tremblements de terre? Eh bien, pas si sûr. Les comportements prédictifs supposés de certains animaux face aux tremblements de terre sont scientifiquement très difficiles à prouver. C'est la conclusion en tout cas d'une équipe de chercheurs allemande qui s'est attelée à cette quête de preuves. Leur article paru cette semaine décrit 729 rapports de comportements anormaux des animaux liés à 160 tremblements de terre passés. Les diverses hypothèses qui suggèrent que les animaux pourraient ressentir les changements dans les eaux souterraines ou les rejets de gaz du sol liés aux ondes sismiques n'ont pour l'instant donc pas pu être confirmé par cette étude.